Chapitre 15. Here comes the jets, little world. Step aside. Better go underground. Better run. Better hide. Jet Song, West Side Story. Lola. Elle n'a pas repris connaissance. Ses mots tournent en boucle dans ma tête. Depuis que nous sommes à l'hôpital, elle n'a pas repris connaissance. Et si elle ne se réveillait pas? Et si elle partait sur notre dispute de ce matin? Non, ce n'est pas possible. Je refuse qu'elle me quitte comme ça. Son corps est parcouru de frissons. Elle transpire et gémit par moments. Mais elle n'a pas repris connaissance. Il a fallu que j'explique la situation au médecin. Le cancer, la récidive, la décision de ne pas se soigner. Elle est affaiblie par la maladie. Elle a dû choper un virus, ou c'est plutôt lui qui l'a chopé. Elle est sans défense immunitaire, ou presque. Il faut d'abord faire tomber sa fièvre, enrayer l'infection qui pourrait lui être fatale. J'espère qu'elle ne souffre pas trop, que les médicaments administrés en perfusion la soulagent. Depuis combien de temps suis-je assise dans cette chambre à lui tenir la main? J'ai l'impression que ça fait des heures. Gabe n'est pas venu, estimant que Ginger n'aurait sans doute pas envie de le voir au réveil. Sans lui, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je serais toujours en train de paniquer près du corps inanimé de Ginger, à pleurer. Dans ma main, je sens soudain ses doigts remuer. Ginger? Ginger? C'est moi, Lola. Ouvre les yeux, dis-moi quelque chose. Ses yeux s'ouvrent, puis se referment aussitôt. Elle grimace et pousse un cri. Où suis-je? Tu es à l'hôpital, Ginger. Gabe et moi t'avons trouvé sans connaissance sur le sol de l'appartement. J'ai eu si peur, si tu savais. Mais ça va aller maintenant. Tu entres de bonnes mains. Tu vas vite te remettre. Lola, je suis désolée pour ce que je t'ai dit, murmure-t-elle. Je n'aurais pas dû. C'est moi qui suis désolée. Je t'embête avec mes préoccupations futiles alors que toi, je m'en veux si tu savais. Ses doigts se referment sur les miens, ses yeux papillotent, puis elle se rendort. Repose-toi, ma Ginger. Reprends des forces, je ne bouge pas.
Ginger. J'ai si mal, mes poumons sont en feu. Quand je respire, la douleur est atroce. Et puis ce mal de tête, je voudrais que ça s'arrête. Depuis combien de temps suis-je ici? Des heures, des jours et l'audition. Je dois sortir d'ici, j'ai des choses à faire. Lola est là. Je sens qu'elle est là. Oh Lola, je suis tellement désolée, si tu savais. J'ai été horrible avec toi et injuste. C'est toi qui avais raison, tu m'as ouvert ton cœur et moi, en bonne égoïste que je suis, je t'ai renvoyé mes peurs et mes angoisses. Les médecins, il faut que je leur dise, que je leur explique. Je ne peux pas rester, je refuse de laisser passer ma chance. D'autant que je sais désormais que ce sera sans doute la seule et unique. Je suis trop faible. La maladie a gagné trop de terrain pour que je puisse espérer autre chose que cette audition pour réaliser mon rêve. Je suis si fatiguée. Si fatiguée. Une fois de plus, je me laisse couler et envahir par cette douceur qui m'enveloppe. J'alterne ainsi les phases de semi-conscience. Chaque fois que je réussis à ouvrir les yeux, Lola est à mon chevet. Je lui enjoins d'aller se reposer, mais elle refuse systématiquement. Est-ce qu'elle prend la peine de manger, de dormir? Ne t'inquiète pas pour moi, me répond-elle lorsque je l'interroge. Johnny m'apporte de quoi manger, et les infirmiers m'ont dégoté ce fauteuil pour que je puisse dormir un peu plus confortablement. L'audition, n'y pense pas, pour l'instant. Tu dois te remettre sur pied. Elle est passée? Non, pas encore. Tu as le temps de te débarrasser de cette pneumonie. J'ai toujours mes chances. J'ai toujours mes chances, pensais-je, avant de sombrer à nouveau dans un sommeil cotonneux et sans rêve. Je sens une main fraîche sur mon front brûlant. J'ouvre un œil à demi. « Maman, c'est toi ?» articulai-je avec toutes les difficultés du monde. Ma bouche est sèche et pâteuse. « Oui, c'est moi, ma petite, ma toute petite. » Maman est là. J'ai soif. Elle me fait boire quelques gorgées d'eau, c'est agréable. Il faut que je la remercie. Ma bouche s'entr'ouvre, mais aucun son ne sort. Mes yeux se referment. Je me réveille en sursaut. Maman, tu es toujours là? Je n'ai pas bougé. Je ne vais pas y arriver, maman. Je ne vais pas y arriver, je suis tellement fatiguée, j'ai tellement mal. Tout mon corps me fait souffrir. Notre rêve, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, il est trop tard. Calme-toi. Ne pense pas à ça. Tu dois te reposer, tu dois juste te reposer. Je suis si fière de toi. Tu es ma plus belle réussite. Pourquoi est-ce que tu es partie, maman? Pourquoi tu m'as laissée? J'aurais pu te soigner, j'aurais pu être une meilleure Ginger, j'aurais pu. Pourquoi, maman? Elle me berce. J'ai beau lutter de toutes mes forces. Une nouvelle fois, le sommeil l'emporte. Un rayon de soleil réchauffe ma joue et me tire de ma torpeur. Je suis courbaturée de partout comme si j'avais fait 200 burpees d'affilée. Salut. Je me demandais quand tu allais te réveiller. La fièvre est tombée, les médecins disent que le pire est passé, m'informe Lola. Est-ce que je me suis fait rouler dessus par un tracteur? J'ai mal partout. Tu veux que je les appelle pour qu'ils augmentent tes antalgiques? Non, non, ça me fait dormir, tout leur calmant. J'ai dormi suffisamment pour les 20 prochaines années. Tu es toute seule? Oui, ils ne nous laissent pas rentrer à plusieurs. Mais Johnny est venu te voir, et Gabe aussi, figure-toi. Je pense que tu lui as fait forte impression. Tu m'étonnes. Un cancer et maintenant une pneumonie, il y a de quoi être ébloui. On a eu peur, tu sais, très peur. Tu étais allongée par terre et tu ne réagissais pas. J'ai cru... Je suis encore là, solide comme un roc, dis-je en essayant sans succès. Lola, s'il te plaît. Elle est dans 10 jours. Mais tu n'es pas obligée, Ginger. Tu n'as rien à prouver. Nous savons que tu en es capable. Sans cette maladie... On t'a écouté au restaurant et les gens t'ont applaudi. Tu dois d'abord prendre soin de toi. Non ! M'écriai-je, alors que des larmes jaillissent de mes yeux. « Je ne peux pas renoncer maintenant, si proche du but. Je refuse que la maladie gagne encore une fois, qu'elle anéantisse notre rêve encore une fois. Elle n'a pas eu la force, mais moi, je dois absolument aller au bout. Sinon, tout ça n'aura servi à rien. Je t'en supplie, Lola. Dis-moi que tu comprends. Dis-moi que tu m'aideras. Je t'en supplie !» Je pleure tellement que j'ai de la peine à respirer. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Et j'ai si peur. D'accord, d'accord. Je te jure que je ferai tout mon possible pour t'aider. Mais tu dois me promettre à ton tour une chose. Quand tu auras passé cette audition, on revient ici. Je n'aurai pas la force de te voir souffrir. Te trouver par terre, c'était... Je n'aurai pas la force. Je te le promets. Elle me prend dans ses bras avant de s'écarter, les yeux rougis. J'ai une surprise pour toi, au fait. Regarde. Elle sort son téléphone de sa poche et démarre une vidéo. Je reconnais les cuisines de mon restaurant. Thomas est derrière les fourneaux. Il fait un signe de la main, puis entonne les premières paroles de Cheek to Cheek, cette chanson chantée par Ginger Rogers et Fred Astaire que je fredonnais tout le temps lorsque j'étais de bonne humeur. Il chante faux comme une vieille poêle à frire rouillée. Néanmoins, il y met tout son cœur. Il est rejoint petit à petit par l'ensemble de l'équipe, tous ceux avec qui j'ai travaillé et construit chez Ginger. Réunis autour de Thomas, ils chantent « Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. » J'avais séché mes larmes, elles coulent de nouveau. Tu leur as dit pour... Oui, je suis désolée, ils s'inquiétaient. Pendant que tu étais aux prises avec la fièvre, ils t'ont envoyé plusieurs messages. Je ne pouvais pas les laisser comme ça, sans nouvelles. Ce sont tes amis, Ginger. Et puis, tu m'avais dit que tu les informerais de toute façon. Oui, c'est vrai. Tu as bien fait. Je ne sais pas si j'aurais réussi à le leur annoncer. Ils me manquent. Après l'audition, nous pourrons peut-être faire un saut chez Ginger et goûter au nouveau plat de Thomas. Ça me ferait plaisir. Je ne louperai pas la prochaine occasion de lui rappeler qu'il met beaucoup trop d'épices dans sa cuisine. Nous faisons des projets comme si j'en avais encore le luxe, alors que nous savons l'une comme l'autre que ce temps-là est révolu. Il ne me reste plus que quelques jours, je le sens. À côté de Lola, ma mère est là et me sourit. Je veux sortir. Et moi, je veux mesurer 1m80 et avoir le corps de Beyoncé, me rétorque le médecin, une femme plutôt ronde d'1m50.
Je vais vous répéter ce que j'ai dit à votre amie, car oui, elle a déjà essayé de plaider votre cause. Votre organisme est très affaibli. Vous n'êtes pas encore en état de sortir. Je ne sais pas si vous en avez conscience, visiblement non, mais il s'en est fallu de peu pour que nous n'ayons pas cette discussion. Je peux vous signer une décharge, si vous voulez. C'est ce que font les gens dans les séries, non? Oui, eh bien nous ne sommes pas dans une série. Je me fiche que vous me signiez quoi que ce soit. Ce qui m'importe, c'est vous. Et je vous répète que vous n'êtes pas en état. Je refuse de prendre le risque de vous laisser sortir. Pas avant au moins quelques jours, ajoute-t-elle pour tenter de me convaincre. Mais je me sens beaucoup mieux. Ah oui? Si vous réussissez à vous mettre debout et à marcher seul jusqu'à la porte, je vous promets de revoir ma position et de signer votre bulletin de sortie. Marcher jusqu'à la porte? Rien de plus facile. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Je me redresse sur mon lit, tente de faire abstraction du vertige qui me prend, bascule mes jambes et dans un mouvement déterminé, je me mets debout. Je défie le médecin du regard, fier, avant de m'effondrer sur elle, mes jambes ayant décidé de ne pas coopérer et de se dérober sous mon poids. « Une autre revendication ?» demande le médecin non sans une pointe de sarcasme, tout en m'aidant à me rallonger. « Vous ne comprenez pas. Je dois passer une audition pour une comédie musicale. Je ne peux pas me permettre de la rater. J'en suis désolée, mais vous devez laisser à votre organisme le temps de récupérer. Dans cet état, vous ne tiendriez pas debout ne serait-ce que 2 minutes. » Si les choses suivent leur cours normal, nous pourrons envisager une sortie d'ici une dizaine de jours. Je vous promets de ne pas vous garder plus que le temps nécessaire. Une dizaine de jours. Il sera trop tard.
Lola.
Tu veux que je fasse quoi?
Je veux que tu m'aides à m'échapper de l'hôpital, me répète Ginger. C'est bien ce que j'avais compris, donc. Je caressais l'espoir d'avoir mal entendu, mais non. S'il te plaît, Lola. Je ne peux pas laisser tomber si près du but. Tu ne peux pas avoir affronté toutes tes angoisses pour que l'histoire se termine ici, entre ces 4 murs blancs et aseptisés. Même si on réussissait, et je n'ai pas dit que j'acceptais, entendons-nous bien, comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Un sourire éclaire son visage amaigri.
Une kidnapping? S'écrie Johnny. Cool!
J'étais sûre que tu allais adhérer. C'est de la folie. On va finir en prison sur Rikers Island. Me lamentais-je. Je crois que la police de New York a autre chose à faire que poursuivre une Frenchie cancéreuse out of the hospital. If you need me, je suis là. Pas une pour rattraper l'autre. Elle t'a promis de retourner si elle va pas bien après. Oui. Alors fais confiance et laisse-lui une chance. Maybe it's the last. Le plan est assez simple. Johnny et moi allons sortir Ginger pour une balade dans le parc de l'hôpital en fauteuil roulant. Gabe nous attendra au niveau des grilles de sortie, récupérera Ginger, puis la portera jusqu'à l'appartement qui, heureusement pour lui, n'est pas très loin. Johnny prendra alors la place de Ginger dans le fauteuil et nous terminerons la balade comme si de rien n'était. J'ai l'impression d'être sur le point de cambrioler une banque, pas moi. Pour maîtriser les battements de mon cœur, je me répète en boucle qu'on ne fait rien de mal, qu'après tout, Ginger est libre de décider pour elle, que nous ne violons aucune loi. Ginger est prête lorsque nous entrons dans sa chambre. Bien qu'elle essaie de donner le change, la pâleur de son visage parle pour elle. « Mauvaise nuit », me dit-elle en réponse à ma question silencieuse. « Vivement que je quitte cet endroit. »« Tu es sûre que c'est ce que tu veux? Tu sais, personne ne te jugera si jamais tu décidais de laisser tomber. »« Même si je dois ramper pour atteindre la scène, je veux passer cette audition. » Elle grimace, elle souffre. Pourtant, son regard, lui, est déterminé. Installer Ginger dans le fauteuil roulant nous prend à peine quelques minutes. Quand Johnny me fait signe que la voie est libre, je le pousse hors de la chambre et avance d'un pas décidé que j'espère non suspect vers les ascenseurs.
« It's exciting !»
s'enflamme Johnny. Ce n'est pas vraiment le mot que j'aurais choisi. La traversée du hall de l'établissement se fait, elle aussi, sans encombre, et nous sommes dans le parc en un temps record. Je commence à souffler. C'était la partie qui me paraissait la plus susceptible de rater. Il fait beau, et dans d'autres circonstances, nous aurions presque pris plaisir à nous promener dans ces allées bordées de grands arbres. Les circonstances étant ce qu'elles sont, nous pressons le pas. J'aperçois Gabe qui nous attend à la sortie. Il nous fait un signe de tête pour nous indiquer que tout est OK pour lui. Je commence à me détendre. Tout va bien se passer. Quand nous arrivons à hauteur de Gabe, celui-ci ne perd pas de temps et soulève Ginger du fauteuil encore plus facilement qu'il y a quelques jours lorsque nous l'avons trouvée inconsciente. Elle a dû perdre beaucoup de poids depuis.
Cela fait deux fois que vous vous retrouvez dans mes bras en moins d'une semaine. Je vais finir par penser que vous le faites exprès et que vous en pincez pour moi.
Dans vos rêves. Et ne profitez pas de la situation pour poser vos grosses pattes poilues n'importe où.
Johnny prend la place de Ginger dans le fauteuil. Il ne reste plus qu'à le ramener à l'intérieur.
Hé ! Qu'est-ce que vous fabriquez ?
Nous interpelle soudain une petite femme ronde en blouse blanche que je devine être le médecin de Ginger.
Je vous ai vu passer devant mon bureau et vos regards ne me disaient rien qui vaille. Vous êtes vraiment plus têtu qu'une mule,
s'énerve-t-elle.
Vous n'êtes pas en état. Dans quelle langue faut-il vous le dire ? J'appelle la sécurité.
Non, s'il vous plaît, non, m'écriai-je. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Je sais que ça paraît déraisonnable, et croyez-moi, je suis la première à avoir essayé de dissuader Ginger, mais c'est important pour elle. Une promesse faite il y a des années. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Bredouillai-je, les yeux remplis de larmes. Vous le savez. Je vous en supplie, laissez-la partir. Et c'est moi qui vous promets de vous la ramener dans quelques jours.
Il n'y a plus un bruit. Même les oiseaux semblent avoir suspendu leur chant.
Je vous accorde une semaine. Si d'ici là vous n'êtes pas de retour, j'organise votre rapatriement sanitaire en France. Je ne plaisante pas. Il n'est pas question que je vous laisse livrer à vous-même dans cet état.
J'expulse l'air de mes poumons. Les oiseaux se remettent à chanter. Les rues de New York s'animent de nouveau du vacarme de sirènes en tout genre.
Merci, dit Ginger. Je sens bien que vous trouvez toute cette histoire ridicule, qu'à ma place vous seriez assise sur un fauteuil à regarder s'écouler dans votre veine une énième poche de chimio. Même si je vous expliquais pendant des heures, je sais que je ne réussirais pas à vous convaincre. Alors merci.
Une semaine, et pas un jour de plus,
nous répète-t-elle avant de tourner les talons.
Ginger. Gabe me dépose sur le lit avec délicatesse. Si me porter de l'hôpital à son appartement n'a pas dû se faire sans mal, il n'en montre rien. Je crois que je vous dois des excuses, je vous ai mal jugé. Merci de m'avoir ramené ici. Il hausse les épaules comme pour dire qu'il n'a pas fait grand-chose. Est-ce que je peux abuser et vous demander encore un service ? Vous ne pouvez plus vous passer de moi et vous voulez que je reste ici cette nuit ? Lance-t-il avec un petit sourire en coin. J'ai dit que je vous avais mal jugé. N'allez pas en déduire que j'en suis arrivée au point de vous trouver désirable. Crachez le morceau, reprit-il en souriant de plus belle. Qu'est-ce que je peux faire encore ? Dans ma valise, il y a un flacon en plastique blanc. Est-ce que vous pouvez me l'apporter avec un grand verre d'eau ? Il s'exécute et, après un aller-retour, me tend le médicament. Ce sont des pilules que m'a données mon médecin en France. Il m'a dit de les prendre quand la douleur deviendrait trop forte. Quel genre de pilules ? Légales ? Il ne m'a pas dit et je n'ai pas posé la question. Si ça peut m'aider à moins souffrir pendant les derniers jours qu'il me reste, je suis prête à faire n'importe quoi. J'ouvre le flacon, en sors deux petits comprimés blancs que j'avale avec une gorgée d'eau. Je ne m'étais pas aperçue que j'avais soif. Je vide mon verre d'un trait. C'est... la fin, alors ? Demande-t-il après un long silence. Je pense que oui.